RFI.
14h30 à Paris, 12h30 en temps universel, c'est l'heure des actualités africaines sur RFI. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. Il pourrait perdre son immunité. La procédure inédite du Sénat congolais contre Joseph Kabila s'annonce longue et complexe. Il est accusé par les autorités d'être complice de la rébellion AFC M23. L'entourage de l'ancien président dénonce une manœuvre politique, nous le verrons. En RDC toujours, ils sont arrivés à Kinshasa à la fin d'une opération et plus de 1300 militaires et policiers qui ont été évacués de Goma ces dernières semaines. Opération de rapatriement donc organisé par le comité international de la Croix-Rouge. À la une également, Ali, Sylvia et Noureddine Bongo sont en Angola. La femme et le fils du président gabonais déchu en liberté provisoire, mais toujours poursuivi dans une affaire de détournement de fonds. Nous entendrons le soulagement de l'un des avocats de la famille Bongo et l'incompréhension et la détresse des familles des victimes de la crise post-électorale de 2016. Afrique Midi à Abidjan ce samedi également, et ce pour le Festival international du dessin de presse et de bande dessinée qui referme ses portes ce soir. Et puis les joueurs font en ce moment leur montrée sur le parquet à Kigali pour la Basket Africa League. La conférence du Nil débute donc au Rwanda. En RDC, une commission technique devra donc se prononcer sur la demande de levée de l'immunité de Joseph Kabila. Elle s'appuie sur le réquisitoire du procureur près la haute cour militaire qui repose lui-même en partie sur les déclarations d'Eric Nkuba, ce collaborateur de Corneille Nangaa, arrêté puis condamné à mort, affirme selon le procureur avoir entendu une conversation entre Kabila et Nangaa évoquant un plan rwandais contre le président Tshisekedi. Joseph Kabila aurait là suggéré de renverser son prédécesseur, des éléments qui, selon le ministère public, appuient les accusations de trahison et de soutien à l'AFC M23. Bonjour Patient Ligaudy.
Bonjour Simon.
Alors comment réagit-on dans les camps de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa ?
Corneille Nangaa dit ne pas se sentir concerné parce qu'il qualifie des théâtres politiques de Kinshasa. La plénière du Sénat, un cirque, affirme-t-il, du côté de Joseph Kabila, même ton tranchant, les accusations sont balayées d'un revers de main. Cet entretien n'a jamais eu lieu, assure un proche de l'ancien président, et il insiste, Joseph Kabila est une personnalité extrêmement discrète, il parle très peu, même au téléphone, et reste toujours mesuré dans ses propos, y compris en privé, fin de citation. Un autre collaborateur y voit une démarche politique, selon lui, cette tentative d'élever d'immunité est la suite logique d'un acharnement orchestré depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi. Il cite plusieurs éléments. D'abord, les retraits de la garde rapprochée de Joseph Kabila, puis la suspension de ses émoluments d'anciens chefs d'État, et enfin, dit-il, un harcèlement continu contre sa famille biologique et des membres de son parti. Et il conclut, le président Félix Tshisekedi ne se sentira en paix que lorsqu'il aura neutralisé son prédécesseur. Fin de citation. Et pour l'entourage de Joseph Kabila, la procédure en cours au Sénat n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique. Mais du côté du procureur, on affirme que les faits sont documentés.
Patient Ligaudy, merci beaucoup. En RDC toujours, plus de 1300 militaires et policiers ont été évacués de Goma, réfugiés dans des bases de la MONUSCO près de la ville prise par l'AFC M23. Ils ont donc été transférés ces deux dernières semaines vers la capitale Kinshasa. À la fin donc d'une opération qui aura été longue et complexe et menée par le CICR, le Comité International de la Croix-Rouge. Magali Lagrange.
Il aura fallu deux semaines pour évacuer les 1300 policiers et militaires désarmés des forces gouvernementales congolaises de Goma vers Kinshasa. Un long trajet, 2000 km, qui a mobilisé d'importants moyens, plusieurs convois routiers sur l'axe Goma-Lubero et des dizaines de vols en hélicoptère et en avion. Une opération complexe et périlleuse. Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR au Nord Kivu.
En traversant évidemment une ligne de front et d'anciennes zones de combat, on avait aussi des restes de guerre sur une partie de la route, ce qui peut évidemment représenter un danger.
Des étapes délicates, des passages par des zones contrôlées par différents acteurs armés, explique le CICR, qui nécessitent un dialogue constant pour obtenir des garanties de sécurité. Le Comité international de la Croix-Rouge espère que cette opération ouvrira la voie à d'autres accords humanitaires pour réduire les tensions dans l'est de la RDC.
Ce n'est pas nous qui choisissons les personnes qui sont concernées par les opérations. Si toutefois il devait y avoir une autre demande de la part d'un des acteurs concernés, le CICR se tient prêt à pouvoir faire une autre opération.
Les membres des forces de défense et de sécurité congolaises évacuées se trouvaient depuis plus de 3 mois dans les bases de la MONUSCO, où ils avaient trouvé refuge fin janvier après la prise de Goma par la FCM-23.
Un projet de loi de dérogation au code électoral à la une de l'actualité politique en Centrafrique. Les députés doivent donc se prononcer aujourd'hui. Le texte qu'ils ont à examiner prévoit de suspendre l'obligation d'avoir une liste électorale révisée, et ce, 1 an avant un scrutin. La disposition est en effet intenable, étant donné que la Centrafrique doit organiser des élections locales fin août et surtout nationales, présidentielles et législatives, cette fois en fin d'année. Les précisions avec François Mazet.
Le projet prévoit la suspension de l'article 18 du code électoral de 2024 qui stipule que la liste fait l'objet d'une révision au plus tard 1 an avant toute élection. Or, les retards dans le processus obligent à contourner cette disposition, car l'organisation de la présidentielle avant la fin de l'année est une obligation constitutionnelle, explique Mathurin Dimbélé Nakoué, le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale.
La constitution prévoit l'organisation des élections générales 90 jours ou plus avant le terme du mandat du président en exercice. Il se trouve que si cette loi dérogatoire n'apparaît pas, ben on ne sera pas en mesure d'organiser ces élections-là dans les délais prescrits par la Constitution.
Mais pour l'opposition, ce détricotage montre l'amateurisme des autorités et remet en cause l'intégrité de la liste et donc du scrutin, l'ex-premier ministre Martin Zighele.
Ça veut dire qu'ils sont incapables de faire en temps et en heure des listes électorales fiables, de les publier, de les corriger, de les afficher. Le délai a été mis en place pour permettre aux uns et aux autres d'exercer les recours. Et donc, la période de contention électorale saute. Donc, il y a un danger par rapport aux droits des citoyens.
Le président de l'Autorité nationale des élections s'est dit favorable au projet. La mission d'observation électorale de la société civile Arc-en-Ciel a pointé dans un communiqué de nombreux problèmes liés à cette liste. Un de ses membres juge intenable l'organisation des élections locales prévues pour le 30 août.
La Centrafrique et ses 1200 kilomètres de frontière avec le Tchad, sujet de plusieurs rencontres ces dernières semaines entre experts militaires des deux pays. Et bien finalement, Bangui et N'Djamena ont annoncé la création d'une force conjointe contre l'insécurité à leurs frontières. Cette mission est entièrement financée par les deux pays, mais le nombre des soldats mobilisés n'a pour l'heure pas été révélé. Dans cette édition d'Afrique Midi, nous revenons à présent sur les réactions nombreuses au Gabon après le départ de la famille Bongo en Angola. Ali Bongo, le président gabonais déchu, sa femme Sylvia et son fils Noureddine sont donc arrivés à Luanda. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit du fruit d'un accord diplomatique entre João Lourenço, le président angolais, actuellement à la tête de l'Union africaine, et Brice Clotaire-Oligui Nguema. Les deux hommes se sont en effet rencontrés à Libreville en début de semaine. Et bien, selon maître François Zimray, il s'agit d'un soulagement pour la famille Bongo, dont il est l'avocat.
C'est pour eux la fin d'un long cauchemar. C'est pour nous le résultat de longs efforts, à la fois sur le plan judiciaire et diplomatique. Il faut être conscient que mes clients sont depuis 20 mois privés de leur liberté, incarcérés de façon arbitraire et cruelle, qu'ils ont été torturés et qu'une grande partie de cette incarcération s'est déroulée dans un second sous-sol, sans fenêtre, sans promenade, sans accès à la famille, sans parloir, avocat, bref, en violation des droits fondamentaux les plus élémentaires. Et ils vont enfin pouvoir se soigner, car ils sont très atteints par cette détention, parce qu'ils sont physiquement et psychologiquement atteints. Ils ont aussi, je le précise, été très, très largement dépossédés de leurs biens dans le cadre des séances de torture qu'ils ont subies. Donc ces gens ont besoin, cette famille a besoin de se soigner et de tourner la page.
Maître François Zimray qui ajoute ne pas savoir si Luanda n'est qu'une étape ou bien un lieu d'établissement pérenne pour la famille Bongo. Il assure ne pas croire à un procès équitable pour Sylvia et Noureddine Bongo au Gabon. Un procès qui aura pourtant lieu en présence ou en l'absence des prévenus. C'est ce qu'annonçait hier Eddy Minang. Il est procureur général gabonais et il explique que Sylvia Bongo et son fils ont été remis en liberté provisoire pour des raisons humanitaires, mais qu'ils sont toujours poursuivis notamment pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Quoi qu'il en soit, ce départ de la famille Bongo vers l'Angola passe mal auprès de nombreux acteurs politiques et de la société civile. Au sein des familles des victimes de la crise post-électorale de 2016, c'est la colère qui règne. Aïcha Tsumbu est présidente de l'association Réconciliation. Très émue, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux.
Vous ne nous avez pas posé la question de savoir ce que nous en voulait. Mais à Sylvia Bongo et à Noureddine, vous avez posé la question de savoir ce qu'ils voulaient. Et bien évidemment, ils vous ont dit, on veut une liberté provisoire. Vous pensez un peu comment nous, on se sent. La 5e République, là, c'est pour favoriser des personnes qui nous ont massacrés. C'est pour favoriser l'injustice. Parce que Madame Sylvia nous aurait dit, ont assez de moyens et que des avocats français se sont levés pour venir intervenir, pour venir dire que ce n'était pas normal. Donc on comprend bien que les droits de l'homme, là, c'est à deux niveaux. Monsieur le Président, ce ne fait même pas un mois que vous allez pour le pouvoir. Mais vous avez pu prendre une telle décision. Qu'allons-nous penser de vous? Avons-nous bien fait de vous élire, président?
L'émotion et le cri du cœur d'Aïcha Tsumbu au nouveau président gabonais Brice Oligui Nguema. C'est un classement qui évalue la qualité de vie dans chaque pays. L'indice de développement humain calcule en effet le niveau de développement des pays. Eh bien, hier, les Nations Unies ont publié leur dernier rapport en la matière. Sur le continent, c'est la Côte d'Ivoire qui enregistre la deuxième plus forte progression en 2023 derrière la Somalie. Le pays ouest-africain occupe désormais la 157e place du classement mondial. Benoît Almeras.
La principale explication de cette progression, c'est la croissance du revenu national brut par habitant. Il est aujourd'hui de 6735 dollars américains par an et a grandi de 10% entre 2020 et 2023. Autre critère, l'allongement de l'espérance de vie des Ivoiriens. Elle est passée d'un peu plus de 60 ans à près de 62 ans dans le même laps de temps. Reste que le pays a encore une marge de progression d'après les données du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. C'est le cas en matière d'éducation. Sur la période 2020-2023, la durée moyenne de scolarisation stagne. Elle est actuellement inférieure à 5 ans. Autre frein identifié, les inégalités. En prenant en compte les disparités de revenus, d'accès à l'éducation et d'espérance de vie, la Côte d'Ivoire perd près de 40% de son score de développement humain, selon les statistiques du PNUD. Benoît Almeras, Abidjan. RFI.
L'opposant ivoirien Tidiam Thiam était lui à Bruxelles hier avec ses partisans devant le Parlement européen, là où il a donc mené une manifestation, et ce alors que la justice ivoirienne a ordonné sa radicalisation de la liste électorale, le rendant de facto inéligible à la présidentielle du 25 octobre. Une injustice flagrante et une décision politique pour les soutiens du leader du PDCI RDA. Le dessin de presse au service de la rivalité, de la vérité et de la paix électorale, c'est justement le thème de la 8e édition du Coco Bulle, qui se tient lui à Abidjan, un festival international du dessin de presse, un événement qui va donc se refermer ce soir et auquel s'est rendu Binta Diagne.
C'est un panel de plusieurs dessinateurs originaires des quatre coins du continent. Pour eux, le dessin de presse permet d'attirer l'attention des lecteurs vers un fait de société. Willy The Kid se souvient par exemple qu'en période de pandémie de Covid-19, les dessinateurs s'étaient mobilisés en réseau pour démonter les fausses informations sur cette maladie.
Cette campagne de sensibilisation a eu un grand succès parce que les gens ont rigolé avec des informations qui faisaient peur à la base et les gens se sont repartagés nos dessins, les affiches et tout.
Trois journalistes produisent simultanément des dessins inspirés des débats. Lorsqu'un jeune pose la question de l'intelligence artificielle comme outil de travail des dessinateurs, Carlos Guédégou exprime ses réticences.
Je suis vraiment furieux par rapport à l'IA et toutes les désinformations. Il y a de l'excès, il y a trop de déformations et ça gêne.
C'est la 8e édition de ce festival de dessin de presse qui vise en particulier les jeunes abreuvés par les réseaux sociaux. Mendoza, le superviseur de Coco Bulle.
Nous voulons montrer à ces jeunes-là qu'il faut utiliser les médias de façon responsable. Nous voulons aussi montrer que les dessinateurs de presse qui utilisent les dessins comme outil ont vraiment une grande responsabilité dans les messages qu'ils portent.
Au-delà des débats d'idées, plusieurs ateliers sont organisés pour initier les jeunes à la bande dessinée. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Un mot de sport avec la Basket Africa League. La conférence Nil a débuté ce samedi à Kigali, au Rwanda. Quatre équipes s'affrontent pour obtenir leur place pour la dernière étape prévue en juin en Afrique du Sud. À 15h30 TU, les Rwandais de l'APR Club monteront sur le parquet. Lucie Mouillot les a rencontrés à leur entraînement.
Concentration, détermination pendant les derniers entraînements des APR avant le coup de sifflet du premier match. William Robbins, capitaine de l'équipe, est bien décidé à prendre sa revanche sur la dernière saison.
On arrive plus fort cette saison et puis il y aura les fans, le sixième homme, ça va vraiment nous aider. On a un bon équilibre. Je pense que ce sera difficile de défendre contre nous, de nous attaquer aussi, parce qu'on a en plus une bonne défense. Et puis cette année, l'équipe ne va pas tourner autour d'un seul joueur star. Je pense que c'était le problème l'année dernière.
Des joueurs stars comme l'Américain Noël Obadia, blessé pendant les qualifications de la saison 2024. Cette année, l'équipe est mieux préparée, notamment avec certaines nouvelles recrues comme le jeune Malien Aliou Dara ou le pivot sénégalais Youssou Ndoye, affirme James May Jr., l'entraîneur principal des APR.
Ils apportent de la densité physique, de la taille, une vraie présence au panier. Je suis sûr que l'équipe n'avait pas ça l'année dernière. Cela permet à nos shooters d'avoir un peu plus de liberté défensivement. Ça nous permet aussi de protéger l'arrière du terrain. C'est un vrai atout au rebond, l'un des points faibles de l'équipe l'an dernier. Il y a une très bonne énergie dans ce groupe, de la confiance. On a beaucoup travaillé et je pense qu'on est prêt.
Pas question pour les APR de passer à côté des qualifications, surtout pas à domicile. Objectif, devenir la première équipe rwandaise à atteindre la finale de la balle. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
À Kigali, où il est 14h46, 2h de moins en temps universel.
Afrique Midi. Simon Bourtembourg.
La suite d'Afrique Midi avec vos chroniques du samedi. Dans un instant, on ouvre les pages du magazine Jeune Afrique. Le Mali et la dissolution des partis politiques, ce sera à la une de notre rendez-vous hebdomadaire avec Jean-Baptiste Placa. Et puis, comme tous les samedis, un mot, une histoire. Lucie Bouteloup reçoit aujourd'hui une compositrice et interprète française. Comme chaque samedi, la une de Jeune Afrique pour commencer. François Soudan, directeur de la rédaction de JA, nous ouvre les pages de son magazine. Il est au micro de Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Comment en est-on arrivé à cette situation, la communauté Peul n'ayant finalement désormais guère d'autre choix que de survivre dans la précarité ou de s'exiler dans un pays voisin?
Alors tout d'abord Catherine, ne nous faisons pas d'illusions. Cette enquête de Mathieu Olivier, de Mathéo Maillard, tout comme le rapport que vient de publier à ce sujet l'ONG Human Rights Watch ou ce que relatent des médias comme RFI, sera qualifié par la junte et ses partisans de mensonge impérialiste visant à diviser le peuple burkinabé. Ce sont des éléments de langage classique utilisés par tous les régimes placés dans ce type de situation. Le problème, c'est que les témoignages et les vidéos sur lesquels nous nous appuyons sont bien réels et que, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Alors les faits, c'est quoi? C'est d'abord cette rencontre racontée par un témoin le 20 février 2023 au palais présidentiel de Ouagadougou, entre le capitaine Ibrahim Traoré et une dizaine de leaders de la communauté Peul, au cours de laquelle le capitaine, qui a accédé au pouvoir quelques mois plus tôt, répète cet avertissement « Allez dire à vos parents que s'ils ne déposent pas des armes, je vais tous les tuer ». Fin de citation. 2 ans après cette rencontre, l'avertissement lancé par Ibrahim Traoré, Catherine, il était prémonitoire.
Et pour être concret, François Soudan, vous décrivez dans le détail une opération menée récemment dans l'ouest du Burkina, opération appelée « Tourbillon vert 2 ».
Oui, Tourbillon vert 2 qui a eu pour cadre la région de la boucle du Mouhoun dans l'ouest en mars-avril de cette année et qui a mobilisé plusieurs milliers d'hommes, des hélicoptères, des drones dans une zone proche du Mali qui est un point de fixation majeur pour les djihadistes du JNIM et où l'armée subit de lourds revers. Alors l'objectif fixé par le capitaine Traoré était clair, nettoyer en particulier les provinces des Banois et du Sourou. Le problème, c'est que quand les forces de Burkinabé sont entrées dans des localités comme Solenzo et les villages environnants, les djihadistes avaient fui. Il ne restait donc que des civils peuls. Et c'est là qu'interviennent les massacres d'au moins 130 personnes, pour moitié des femmes et des enfants, dont les effets ont été filmés, revendiqués, postés par leurs auteurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux, accompagnés de propos à connotation génocidaire. Ces massacres sont irréfutables, Catherine.
Et sur cette situation, précisément, Jeune Afrique pointe la responsabilité des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie.
Eh oui, ces opérations sont pour l'essentiel le fait de miliciens censés être encadrés par les forces spéciales des bataillons d'intervention rapide. Le problème, c'est que la formation de ces miliciens est sommaire à peine 3 semaines avant d'être envoyés sur le front et que leur recrutement se fait sur une base qui est largement ethnique, puisqu'issue des rangs des groupes Kogluogo, ces protecteurs de la brousse, en grande majorité issus de la communauté Mossi. Il y a donc là un processus de milicianisation des forces de défense, une réponse communautaire aux défaillances de l'État qui alimente et se nourrit à la fois d'un cercle vicieux, puisque l'on sait que les djihadistes d'abord en profitent cyniquement pour recruter parmi les Peuls, mais aussi qu'ils ciblent et massacrent en priorité les villages Mossi et Bobo. Vous savez, je pense, Catherine, que les autorités d'Ouagadougou, qui n'hésitent pas à établir une comparaison aussi indécente que délirante entre les médias qui leur déplaisent et la radio des Mille Collines, seraient bien inspirés de veiller à ce que leur propre milice ne devienne pas la version sahélienne des Interahamwe. Il n'y a certes pas, comme au Rwanda, d'intention ou de déclaration génocidaire émanant des autorités burkinabées, mais c'est pas ainsi qu'on éradique le terrorisme, au contraire, on l'alimente.
François Soudan au micro RFI de Catherine Potet, un entretien que vous pourrez réécouter sur notre site internet. Votre prochain journal dans 10 minutes, mais avant ça, un point sur les principaux titres de l'actualité de ce samedi 17 mai. Israël élargit son offensive militaire dans la bande de Gaza, l'enclave palestinienne déjà meurtrie par des bombardements violents ces derniers jours. 10 personnes ont été tuées ce matin selon les secours. En Ukraine, pas de répit dans les violences au lendemain de la réunion d'Istanbul qui n'a donc pas donné beaucoup de résultats. À l'attaque par la Russie d'un minibus transportant des civils dans le nord de l'Ukraine a fait 9 morts et 4 blessés. J-1 avant la présidentielle en Roumanie. Les électeurs doivent choisir entre un candidat libéral pro-Union européenne et un candidat d'extrême droite eurosceptique. Cela pourrait donc bien marquer un tournant. Et puis, la disparition d'une figure du rap français d'origine camerounaise, Wirenois, est mort aujourd'hui. Le numéro 1 des ventes d'albums n'avait que 31 ans. À présent, la semaine de Jean-Baptiste Placa, les regards de notre éditorialiste sur l'actualité de la semaine. Eh bien, c'est par un décret lu à la télévision nationale le 13 mai que le pouvoir de Bamako a dissous les partis et organisations politiques au Mali. De son côté, au Gabon, Brice Clotaire Oligui-Nguema a annoncé au chef de parti le 6 mai dernier des réformes visant à réduire le nombre des formations avec des critères plus contraignants pour la création d'un parti. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut assimiler ces deux annonces comme le font certains?
Entre la démarche de la junte malienne et celle du président élu du Gabon, aucune comparaison possible. D'un côté, un pouvoir militaire sans l'onction démocratique se débarrasse de ce qui le gêne ou ne lui convient pas dans la vie politique. De l'autre, un président certes également parvenu au pouvoir par un putsch, mais qui a attendu d'être réhabilité par le suffrage universel pour engager, seulement engager, des consultations visant à réduire, sur la base de critères plus rigoureux, le nombre de formations. Pour le reste, la pléthore de partis politiques est préoccupante au Mali comme au Gabon et dans bien trop de pays africains. 300 partis pour 23 millions d'habitants au Mali, quelques 106 formations pour seulement 2 millions d'âmes au Gabon. C'est d'autant plus affligeant que dans la réalité, la part de la population adhérente effectivement à ces partis représente rarement plus de 10% de l'ensemble. Mettre de l'ordre dans ce capharnaüm relève de la salubrité publique. Et justement, parce qu'il s'agit de salubrité publique, ce ne peut être l'œuvre unilatérale du seul pouvoir du moment, a fortiori lorsqu'il est issu d'un putsch. Pour emporter l'adhésion de tous, les décisions qui engagent autant une nation requièrent un minimum de consensus.
N'est-ce pas justement ce que suggérait sur nos antennes l'avocat malien à Mamadou Ismaïla Konaté? Il s'interrogeait justement sur les motivations du général Assimi Goïta.
Maître Mamadou Ismaïla Konaté est un sujet brillant, articulé et d'autant plus crédible que nul ne lui connaît d'affiliation politique. Ancien garde des Sceaux, il est un des rares ministres à avoir eu, durant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, le courage de démissionner quand les autres se faisaient congédier. Ces dernières années, sur les réseaux sociaux, pendant que beaucoup se taisaient, lui rappelait aux inconditionnels de la junte le côté risible de certaines de leurs incohérences. Comme lui, beaucoup se demandent en quoi concrètement la suppression des partis politiques sert les intérêts du peuple malien. La démarche des Gabonais semble bien plus cohérente, qui laisse à un président élu l'autorité, non pas pour tout abolir, mais pour engager des consultations et un chantier visant à assainir cet environnement sur des bases rigoureuses pour plus de représentativité des partis d'ici aux législatives.
Mais ces restrictions ne sont-elles pas, par essence, un frein à la liberté ?
Aux États-Unis, pays de quelque 340 millions d'habitants, la vie politique est régie par deux grandes formations. Certes, il y a quatre partis dits partis tiers et une petite trentaine périphériques dits partis nationaux, mais dont on ne parle qu'accidentellement sur l'échiquier politique. À part quelques grandes déceptions survenues ces derniers temps, la démocratie américaine fonctionne en général plutôt bien. Au Nigeria, pays de 230 millions d'âmes, deux partis dominent la vie politique, en plus d'une petite dizaine de formations végétatives. On pourrait aussi citer le Ghana, 33 millions d'habitants et seulement deux partis politiques majeurs. La démocratie y est vivante, davantage que dans toutes ces nations africaines où chaque groupe ethnique, chaque région dispose de son parti. Assainir cette jungle est un impératif, mais en la matière, les réformes durables et bénéfiques sont celles qui s'appuient sur un vaste consensus démocratique. Ce que déplorent les Maliens, c'est que d'autorité, une junte démolisse tout sans avoir pensé l'avenir. Un peu comme dans ces armées où on ne commence à réfléchir qu'une fois le coup de feu parti. Dans un pays où tant de jeunes sont morts depuis mars 1991 pour la démocratie, cette méthode est juste consternante.
Jean-Baptiste Placat, à réécouter ou à lire quand vous le voulez sur notre site internet www.rfi.fr. À présent, la chronique des amoureux de la langue française. Lucie Bouteloup reçoit dans Un mot, une histoire, une autrice, compositrice et interprète française.
C'est un mot employé par les jeunes, mais pas que, qui veut dire beaucoup, 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 très, c'est très important. Et qui vient du Sud, et qui vient de Marseille principalement.
Ce mot, dont il a choisi de nous parler, vient de faire son entrée dans la nouvelle édition du Petit Robert qui vient de paraître. Il fait partie des 150 nouveaux mots du dictionnaire. Des mots du français commun, de toute la francophonie, mais aussi des régionalismes. Avec cette année à l'honneur, ceux qui viennent du sud-est de la France et plus particulièrement de Marseille. Le sociolinguiste Médéric Gasquet-Cyrus, qu'on vient d'entendre et qui enseigne à l'université d'Aix-Marseille, a collaboré à cette édition et quand je lui ai demandé de quel mot il voulait parler, il n'a pas hésité bien longtemps.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Alors j'ai envie de vous parler du mot tarpin. Parce qu'il sonne bien, parce qu'il a une voyelle nasale N qui sonne bien du sud, et que c'est un mot très important en Marseille, très courant, mais aussi très emblématique. Tarpin, c'est simple, ça veut dire beaucoup. C'est un adverbe, hein, ça veut dire, voilà, il y avait tarpin de monde, il y avait beaucoup de monde, c'est tarpin bien, c'est très bien. Et ou alors on peut dire, alors tu as aimé cette émission? On peut répondre tout simplement, ah, tarpin. Alors c'est un mot à l'histoire intéressante parce qu'il est né, il est apparu en tout cas au début des années 90 à Marseille et c'était plutôt le centre-ville on va dire, pas les quartiers nord, pas les quartiers populaires et très vite en fait il s'est propagé chez tous les jeunes de Marseille, les ados, les jeunes adultes et il est devenu en quelques années, décennies, un mot non seulement très courant parce qu'on l'entend partout tout le temps, un mot qu'on voit dans des pubs, il y a des sites, il y a des t-shirts avec écrit ça tarpin, enfin c'est vraiment un mot omniprésent, mais en plus il est devenu emblématique.
Y a tarpin, problème, peu de solution, tarpin en vie de voir mes frangins en permission. Proto, lève la tête et avance. Dis-toi que contrairement à d'autres, on a tarpin de chance.
Alors c'est un régionalisme qui s'est donc répandu dans toute la France. Comment est-ce que vous expliquez ce succès?
Alors ce mot s'est répandu, je pense, à travers les réseaux sociaux, avec des chanteurs, avec du rap, avec des influenceurs, des influenceuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir des jeunes dans différentes régions de France qui vont dire « Ah ouais, à Marseille, ils disent tarpin ». Donc c'est vraiment le mot qui identifie les Marseillais. Mais aussi, on le voit, des jeunes à Paris, à Lyon, à Rennes, qui vont dire tarpin. Pas forcément en sachant que ça vient de Marseille, mais en tout cas qu'ils l'ont récupéré au passage de la circulation des mots.
Alors, est-ce que vous avez des pistes sur l'étymologie de ce mot? Il vient d'où? Ça vient du provençal?
Alors ça, c'est le problème. On n'a pas de piste solide à laquelle on pourrait se rattacher. Ça vient pas du provençal, c'est sûr. Certains disent que ça viendrait du romani, donc du calot, c'est-à-dire d'en parler de gitans, mais il y a très peu de chances. En tout cas, on n'a rien trouvé du tout. Après, des gens me disent « Ah oui, mais ça vient de pétard ». Alors, pétard, l'interjection, pour marquer la surprise, pour s'exclamer « Oh pétard, je suis en retard, oh pétard, il fait chaud, etc. » qui aurait été ensuite inversé. Et donc, ce pétard serait devenu un tarpé, puis tarpin. J'y crois pas trop.
Selon la nouvelle édition du Petit Robert, le mot tarpin est un adverbe du sud-est de la France qui veut dire beaucoup, très, c'est tarpin bien.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la délégation générale à la langue française.
Lucie Bouteloup et Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences en sociolinguistique à l'université Aix-Marseille. Il est notamment l'auteur du livre « Le français va très bien, merci » publié en 2023 chez Gallimard. C'est ainsi que se referme cette édition d'Afrique Midi réalisée par Michael Goncalves. Karine Franck était à la rédaction en chef avec Cécile Périard. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Dans un peu plus de 30 secondes maintenant, un nouveau journal.
Ce lundi sur RFI,
Édition spéciale en direct de Bucarest.
Andréane Mellard.
Toute la journée, RFI sera en Roumanie ce lundi avec nos invités et nos envoyés spéciaux. On va analyser, on va décrypter les résultats des présidentielles en Roumanie, second tour, et en Pologne, premier tour, des scrutins cruciaux pour l'avenir de toute une région sur fond d'ingérence russe et de montée de l'extrême droite. Rendez-vous ce lundi dès 6h, temps universel sur RFI.